La collective. C'est une émission hebdomadaire. C'est à plusieurs. C'est ensemble. C'est local. C'est beaucoup d'ici, parfois de là-bas. C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews, de l'actualité, des chroniques, du reportage, de la musique. C'est divers et c'est varié.
La collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est une fois.
C'est de temps en temps. C'est plein de fois.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans cette collective consacrée à la thématique de l'orientation. On est avec Virginie et Catherine qui viennent nous parler de cette thématique. Donc, bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un petit peu ce que vous venez faire dans cette émission ?
Bonjour Anna, déjà merci de nous accueillir dans cette émission. Donc c'est une première pour nous d'intervenir sur cette radio. On voulait vous parler aujourd'hui de l'orientation, d'un sujet assez important pour nous et puis pour beaucoup de personnes qu'on accompagne. Donc moi je m'appelle Virginie Aurard et j'accompagne des parents et des ados sur la thématique de l'orientation. Donc on va vous expliquer ensuite. Et je suis accompagnée de Catherine.
Donc moi je suis Catherine Boiton et j'accompagne également des jeunes uniquement par contre dans leur orientation scolaire et des adultes en reconversion.
Ok, d'accord. Donc est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en précision sur pourquoi vous avez choisi vous de faire de l'orientation, en fait votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Qu'est-ce qui fait que voilà, c'est votre métier aujourd'hui?
Alors, pour ma part, l'orientation, c'est un sujet qui est très présent, qui est hyper important. Moi-même, quand j'étais ado, je me suis posé cette question-là et j'ai eu la chance. Mes parents m'ont toujours dit « fais ce qui te plaît ». Donc pour moi, c'était une chance et du coup, j'ai vraiment envie d'accompagner les personnes de cette façon-là en disant que chacun a un peu sa mission ou un job qui va lui plaire et comment on lui permet ça aussi. Et je vis ça aussi avec ma fille. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie du coup.
Bah oui, parce que pour les jeunes, c'est très difficile. Souvent, on demande dès le collège, le lycée, de savoir exactement ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. C'est pas évident, c'est pas tout le monde qui arrive à savoir exactement quel va être son futur métier. Est-ce que vous avez des profils comme ça d'élèves, d'ados qui sont perdus et qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire?
Alors, généralement, s'ils viennent vers nous, ils ne savent pas trop. Alors, on aura des jeunes, Catherine, elle va aussi témoigner, parce que du coup, dans nos accompagnements, on a des profils complètement différents. Moi, je peux avoir des jeunes à partir de 4e, 3e, après au lycée, en terminale beaucoup, et aussi dans le cadre de la réorientation, des jeunes qui ont fait une première année de fac, une première année d'école, et ils se disent « ça ne me plaît pas en fait ». Donc du coup, c'est vraiment ça, ils viennent en disant « j'ai des vœux à faire ». Parcoursup, je pense que ceux qui nous écoutent Parcoursup, ça va les activer quelque chose chez eux. Et du coup, ils savent pas trop. Soit ils ont des notes qui paraissent pas assez bonnes pour aller dans certaines filières, soit ils sont très inquiets, soit les parents se mettent aussi la pression parce que il y a les vœux à faire. Donc voilà un peu
D'accord.
Le public.
Et toi Catherine, quel est ton
moi mon parcours alors pourquoi je fais ça parce que moi aussi je me suis beaucoup cherchée. Puis je me suis pas, je pense, posé les questions en sortie de bac. C'était différent aussi à l'époque. Et même en tant qu'adulte, je me suis beaucoup cherchée. Et aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment ce qui me plaisait. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'accompagne des gens qui se cherchent, les jeunes qui veulent, qui veulent trouver leur voie, et des gens qui veulent aussi se reconvertir pour enfin s'épanouir. Moi, les jeunes que j'accompagne, alors ça va de la 4e, pareil, à la réorientation pour la partie des jeunes. C'est vrai que depuis le nouveau bac à spécialité, on a des jeunes de plus en plus jeunes, c'est-à-dire dès la 3e, qui commencent à se poser des questions sur leur spécialité de bac.
Est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux auditeurs et auditrices le bac spécialité? Ouais. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Qu'est-ce que ça implique? Donc, c'est de choisir une spécialité dès
c'est
son
ça,
entrée
en fait,
seconde.
Non, donc, en fait, dès la fin de seconde, on va leur demander de choisir pour la première 3 spécialités. Et d'en garder deux parmi les 3 en terminale. Et c'est des choix, en fait, ils ne savent pas trop comment faire ces choix-là, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire après pour pouvoir choisir en conséquence leur spécialité. Oui. Donc quand ils sont en troisième et qu'ils commencent à se dire « bon, je vais faire un bac général, mais qu'est-ce que je vais choisir en spécialité ? Je suis en troisième, je ne sais déjà pas ce que je vais faire après. » Donc du coup, c'est là-dessus aussi qu'on les accompagne pour aller voir un peu plus loin en fonction de qui ils sont, leur profil. C'est ça aussi qui va les aider bien se connaître pour pouvoir déterminer les spécialités ou peut-être un autre bac, bac technologique ou bac pro. Après, ça dépend.
Et comment ça se passe du coup ? C'est un entretien avec donc, ces élèves. Vous leur posez des questions sur leurs désirs, leurs envies, ce qui les fait rêver peut-être
C'est ça. En fait, ouais. L'idée, c'est vraiment de, quand on veut déterminer son orientation, c'est vraiment d'aller de bien se connaître à définir ses objectifs. Mmh. Et dans les séances, nous, enfin, l'accompagnement, alors soit il se fait en collectif, soit il se fait en individuel. Mais en individuel, on va vraiment, on va être sur 4 séances à peu près. Et on va travailler sur qui je suis, ce qui va être aussi conforté par des tests de profil, sans toutefois les enfermer dedans. Et après, on va aller explorer les différents secteurs qui leur correspondent, faire des enquêtes métiers, pourquoi pas. Aussi, c'est important qu'ils se rendent compte du terrain, de ce qui se passe en réalité sur ces métiers-là. Et puis, petit à petit, on affine. Et puis, on va déterminer quel parcours en fonction de son profil, parce qu'il y en a qui sont faits pour l'alternance, d'autres non, etc.
Et est-ce qu'il y a des métiers qui attirent plus que d'autres ou pas forcément ? Ou à chaque fois, vous avez des profils très variés de jeunes qui font appel à vous ?
Pour ma part, j'ai des profils très, très variés et c'est justement ça qui est assez riche. Et aussi en fonction de, déjà peut-être les métiers qu'ils connaissent, parce que déjà c'est compliqué en fait, il faut se mettre à leur place. Ils ont 14, 16, 17 ans en se disant, ils connaissent même pas le quart des métiers qui existent. Les parents, c'est pareil. Donc du coup, ça peut aller de, j'ai envie d'être boulanger ou j'ai envie d'être ingénieur du son, j'ai envie de faire de la radio ou autre chose. Et du coup, nous, comme disait Catherine, on est vraiment là pour déjà qu'est-ce qu'ils aiment faire aussi dans leur vie. On s'appuie aussi beaucoup de ça. Nous, on n'est pas psychologue en fait, donc on accompagne vraiment les jeunes dans... ce qu'ils font déjà à côté, déjà de par leur personnalité, à mieux se connaître, à mieux comprendre aussi comment ils fonctionnent.
À travers leur passion, leur loisir aussi.
Leur passion, leur loisir, leur engagement, s'ils sont bénévoles, quel sport ils font. Enfin, on s'appuie sur tout en fait. Nous, on ne s'appuie pas sur les notes en fait. Enfin, on est vraiment extérieur au lycée ou au collège. Nous, c'est vraiment définir vraiment le fonctionnement aussi du jeune.
Parce qu'il y a aussi un peu une crainte peut-être de la part des jeunes de faire appel à conseillère ou conseiller, de l'aide à l'orientation, de peur d'être dirigé vers quelque chose en fait qu'on n'aime pas vraiment ou qui n'est pas forcément fait pour nous. Est-ce que ça, vous avez des jeunes qui vous font des retours sur ça ou qui ont été mal orientés ou pas ?
Alors, mal orientés, oui, quand c'est des réorientations post-bac, des étudiants qu'on choisit. Alors, est-ce qu'ils ont été mal orientés ou est-ce qu'ils n'ont pas été orientés ? Est-ce qu'ils se sont posés aussi les bonnes questions au bon moment ? Ça, on ne sait pas. Par contre, souvent, c'est des jeunes qui disent « je ne savais pas quoi faire, je suis allée... » là où ça me semblait le mieux. Mais après, sur les jeunes qu'on accompagne, souvent, c'est les parents qui nous contactent. Et nous, là, ce qui est hyper important, c'est que le jeune soit volontaire, qu'il ait envie. Sinon, de toute façon, on n'arrivera pas à l'accompagner. Et en général, jamais, moi, j'ai entendu qu'ils avaient des craintes par rapport à ça.
D'accord.
Non, ils sont plutôt volontaires et ils ont envie, en fait, de savoir où ils vont.
D'accord.
Et aussi, ils ont souvent l'exemple de leurs parents qui, des fois, eux-mêmes n'ont pas été orientés ou ont fait des choix parce qu'ils avaient... Il y avait beaucoup moins de choix qu'aujourd'hui. Ou alors, c'est le lycée, OK, après telle voie, je fais ça, sans se poser de questions. Donc, plutôt, ils sont assez soutenus par leurs parents, en fait, en disant, écoute, il existe peut-être des choses que tu connais pas. Donc, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles et permettre de faire plein de nouvelles choses, en fait, plein de choses
de
différentes.
Faire ce qu'on veut,
ouais. Et vraiment ce qu'ils veulent et ce qui leur correspond, en fait. C'est surtout ça, parce que du coup, c'est important. Tout à l'heure, Catherine, elle a soulevé la thématique de l'alternance aussi. Donc, il y a vraiment des jeunes qui vont avoir besoin de ça. de faire moitié entreprise, moitié école, d'autres qui ont plus un profil où ils adorent étudier. Et c'est OK, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de mieux ou de moins bien. Donc, c'est vraiment ce qui leur correspond, en fait.
C'est vrai que notamment par rapport à l'alternance ou l'idée de se professionnaliser très tôt, il y a quand même encore beaucoup de préjugés. Peut-être entre jeunes et aussi même de la part des adultes sur le fait de très vite se mettre à travailler comme si c'était comme si ça voulait dire qu'on était moins bien ou que les personnes qui font des études pendant longtemps. Ensuite, est-ce que vous avez des retours par rapport à ça, par rapport à l'alternance
Alors, par rapport à l'alternance, non. Après, c'est c'est encore vrai dans, si je réussis pas à l'école, je vais aller dans des voies plus professionnelles ou des choses comme ça. Mmh. C'est ce qui peut... Nous, justement, on lutte aussi contre ça en disant, non, c'est vraiment en fonction de chaque profil. Mmh. C'est pas parce qu'il va en pro ou en général qu'il est meilleur ou qu'il est moins bon, en fait. Mais on peut encore avoir ça, comme nous, à notre époque, on disait, soit tu redoubles, soit tu vas dans telle filière. Donc, et en même temps, on peut aller dans une filière pro, si ce n'est pas notre fonctionnement, on ne va pas réussir. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça. Enfin, nous, en tous les cas, moi, en tous les cas, j'ai à cœur ça.
Hmm. De mettre en valeur vraiment le profil de chacun et chacune.
C'est ça. Ouais.
Et est-ce que vous avez des parcours de jeunes, des jeunes qui sont venus vers vous, qui vous ont marqué, qui vous ont ému et dont vous avez gardé un souvenir particulier?
Alors moi, j'en ai eu un qui était en terminale éco, donc c'était pas encore le nouveau bac, c'était juste avant le nouveau bac, qui était en terminale éco. Et en fait, lui, il voulait faire... il me disait, il voulait casser du caillou. Donc la problématique, c'est qu'en terminale éco, pour repartir dans quelque chose de professionnel, il fallait soit qu'il retourne en première bac pro, soit... soit rien du tout, en fait, parce qu'il n'avait pas trop le choix. Et lui, il n'a pas voulu redoubler. Il n'était pas scolaire, ça, c'était pas son truc, donc il ne voulait pas redoubler. Et on a quand même... D'ailleurs, c'est même lui qui avait réussi à trouver son ouverture, qui était les compagnons du devoir. Donc, c'était très risqué parce que fallait être sûr d'être pris. Mais il a été pris et du coup, on a exploré les différents métiers des compagnons du devoir et il est parti en charpente. Et voilà, après,
il s'est mis à travailler le bois plutôt que casser le caillou.
Quand il me disait ça, c'était vraiment le côté manuel. Mm. Voilà, lui, il voulait pas quelque chose d'intellectuel, c'était plutôt le côté, je veux être dans le concret, je veux utiliser mes mains. Voilà, c'est exactement ça. Donc, il y a des profils comme ça où c'est chouette, ça nous met un peu en difficulté parce qu'il veut pas redoubler, il veut pas faire un pas en arrière et en même temps il a pas beaucoup d'opportunités autour de lui quoi. Donc
toi,
c'est chouette.
Et toi Virginie, est-ce qu'il y a un parcours, qui t'a marqué?
Je pense à une jeune fille que j'ai accompagnée qui plutôt elle était en terminale en bac pro et derrière elle voulait faire un BTS et du coup on avait beaucoup échangé là-dessus sur un BTS économie sociale et familiale et le jour de la dernière séance elle me dit non en fait ça va pas être possible et donc du coup on échange et en fait elle m'explique qu'elle ne peut pas partir de chez elle là où elle habitait il n'y avait pas de BTS comme ça, il fallait qu'elle parte, qu'elle ait un appart et elle n'était pas prête à ça. On en avait parlé.
Psychologiquement, donc.
Ouais, elle se sentait pas de quitter ses parents, etc. Et ça aussi, c'est des choses qui sont importantes dans le parcours du jeune. Parce que la maturité, ou même, et certains jeunes qui vont avoir besoin de rester encore un peu. Donc, du coup, on a trouvé une autre solution.
Parce que le soutien de la famille est quand même aussi très important dans les choix professionnels, les choix d'orientation. Et tout le monde n'est pas au même niveau, entre guillemets, au même moment.
Donc, c'est ça. Certains vont nous dire, moi, je veux absolument partir à l'étranger, je veux être loin de mes parents, je veux, Et d'autres, ils ont pas envie. Et c'est OK. Et nous, on est vraiment là à prendre dans la globalité, à prendre aussi la situation parentale, parce qu'on a aussi des jeunes qui veulent faire des études qui coûtent très cher. Donc heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus la possibilité de passer par l'apprentissage, mais on a aussi des parents qui ne pourront pas tout financer. Mmh. Donc, on prend vraiment ça en considération aussi.
Vous accompagnez
quoi.
Aussi là, dans cette recherche de financement, aussi pour certaines études, vous aider à trouver en fait, de l'argent
pour... On peut trouver ou alors on peut trouver un autre projet qui peut-être pour retarder un peu, je pense à des jeunes qui veulent rentrer dans des écoles de commerce et qui ne pourront peut-être pas rentrer dès la première année. Donc voilà, trouver des solutions le plus adaptées aux jeunes, en fait.
D'accord. On a beaucoup parlé des jeunes, là. Et du coup, il y a aussi des adultes qui se réorientent, qui font de la reconversion, comme on dit. Beaucoup de reconversions professionnelles, d'ailleurs, ces derniers temps. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un peu de ça, des profils des adultes que vous recevez?
Je fais aussi de l'accompagnement, du bilan de compétences. Donc, c'est vrai qu'on a des profils complètement différents. Soit c'est un choix de se réorienter, envie de faire autre chose, envie d'être plus proche de ses valeurs. Le Covid a encore plus développé ça, en fait. Cette partie du confinement a encore donné encore plus d'envie pour certains. Et puis, certains, c'est des choix subis, parce qu'ils ne peuvent plus faire le métier qu'ils font. Et en fait, souvent, Catherine, elle peut témoigner, elle témoignera aussi. Souvent, c'est des adultes qui nous disent « Mais moi, je ne me suis pas posé ces questions-là quand j'étais ado ou au moment du bac. » Donc, du coup, c'est eux aussi qui nous amènent leurs enfants parfois.
Qui ont fait un métier presque obligatoire, en fait. Enfin, ils n'avaient pas le choix, il fallait gagner de l'argent.
Ou alors, sans se poser ces questions-là, soit reprise d'une entreprise familiale ou parce que c'était la suite logique après leur bac, parce qu'ils voulaient rentrer dans la vie active, sans se dire est-ce que ça me convient ou ça me convient pas. Il y a du... Voilà, j'y vais. Je sais pas toi, Catherine.
Oui, moi c'est ça aussi. C'est des personnes qui autour... Alors en général, c'est autour de 40 ans, mais c'est plus ou moins vrai parce que moi, je crois que la plus jeune que j'ai eue, elle avait 23 ans. Mais ça faisait déjà 6 ans qu'elle travaillait dans la restauration. Et la personne la plus âgée, je pense qu'elle avait 55 ans, voilà, dans ces fourchettes-là. Donc, quand on dit c'est autour de 40 ans, c'est vrai qu'il y a une majorité autour de 40 ans, mais c'est vraiment des personnes qui ont envie de s'épanouir, quoi. Qui, à un moment donné, se donnent l'autorisation. Je pense que les enfants sont un peu plus grands et se donnent l'autorisation de « Ah ben, moi aussi, en fait... J'ai envie d'autre chose, d'un nouvel élan, de plus être en accord avec mes valeurs, d'un nouveau souffle. C'est des personnes qui sont dans cet esprit-là.
Et quels sont les exemples peut-être de reconversion aussi que vous avez pu rencontrer, personnes qui ont changé de métier, qui sont passées vraiment du tout au tout, quoi. Est-ce que vous avez des exemples de profils?
J'ai un exemple qui me vient parce que je crois que c'est ça m'avait marqué, touché. Quelqu'un qui était expert en automobile, ça faisait une quinzaine d'années qu'il était sur ce poste-là et aujourd'hui il est à son compte et il est ébéniste en fait. Donc on a il y a la personne qui peut changer, qui peut évoluer au sein de son entreprise. Et il y a vraiment des gens. Moi je sais que j'avais une directrice commerciale. Aujourd'hui elle est sophrologue, elle est à son compte. Donc c'est assez
très divers. Et variés.
Après, il y a beaucoup de gens, je trouve, moi, ces derniers temps, qui veulent se mettre à leur compte. Alors, c'est bien, c'est chouette. Et en même temps, il faut avoir le profil. Parce que quand on se met à son compte, c'est aussi savoir être plutôt entreprenant, avoir, même si c'est en libéral, avoir cet élan d'aller se faire connaître, de réseauter, etc. Donc, c'est vrai que c'est pas force. Enfin, tout le monde n'a pas le profil.
Et pour toi, ça demande des compétences particulières, enfin, en tout cas, des qualités particulières.
Ça demande, un profil particulier. Enfin, il faut au moins avoir quelqu'un qui est très, on va dire, dans l'analyse, l'observation, qui a besoin de réfléchir, ce qu'on appelle investigateur. S'il n'a pas un peu d'entreprenant, le problème, c'est qu'il va beaucoup réfléchir à comment faire, mais il va avoir du mal à passer à l'action.
À agir.
Et oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est important quand on veut se mettre à son compte de se dire est-ce que je me sens de faire du réseau, d'aller parler de mon activité, de... Voilà. Donc, mais par contre, il y a énormément de gens qui veulent se mettre à leur compte aujourd'hui et il y en a beaucoup qui réussissent malgré tout. Moi, j'ai beaucoup de profils comme ça.
Donc, autant d'artisans que d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, quelles sont ces personnes ?
Des professions libérales aussi, beaucoup de personnes qui vont aller dans le bien-être, pour faire de l'hypnose, de la sophrologie, thérapeute. Et c'est vrai aussi que ces métiers-là, Il y a ce côté relationnel, humain, être utile, mais il y a besoin aussi de développer son activité, en fait. Et souvent, c'est là où c'est compliqué. Enfin, ça peut être compliqué en disant « oui, mais moi, j'ai pas envie ou je sais pas faire ». Ou quand on est salarié, on se pose pas ces questions-là, enfin, suivant le poste qu'on a. Et c'est vrai que c'est vraiment... Nous, on accompagne au changement, en fait. Il y a, dans le cadre du bilan de compétences, il y a vraiment le projet. Enfin, en amont, on travaille sur les motivations, les valeurs, la personnalité. On arrive vraiment à définir des métiers. Et ensuite, on accompagne aussi à comment se mettre en place un peu les...
Enfin, plan d'action, en fait.
Plan d'action, en fait, et en fonction de la personne aussi. Et c'est là où... Enfin, moi, je sais que j'accompagne beaucoup là-dessus en disant, mais c'est quoi l'objectif ? Est-ce que c'est être... naturopathe et en gardant son activité à côté, ça peut être un complément, ou est-ce que c'est vraiment se lancer complètement à fond là-dedans et du coup c'est encore un autre plan d'action voilà.
Et après c'est souvent ce qu'on leur recommande pour les installations, parce qu'on sait globalement qu'on va commencer à vivre de notre activité au bout de 3 ans. Donc c'est souvent aussi ce qu'on va conseiller, c'est de garder peut-être un mi-temps quelque part, soit dans son activité, soit trouver un mi-temps entre guillemets alimentaire, et pouvoir développer en parallèle progressivement son activité.
Oui, ça
c'est des choses qui
demande d'anticiper en fait quand
c'est
même
ça.
Beaucoup aussi.
C'est ça. Et en fait les gens n'y pensent pas souvent, et c'est leur crainte souvent de se dire bah ouais, mais comment je vais ça va marcher, comment je vais développer. Et en fait c'est comme si il leur manquait des wagons entre aujourd'hui je suis salarié, demain je vais être libéral, et waouh, le saut il est énorme. Mais en fait le saut peut être réduit. On peut très bien y aller par petits pas.
Il y a aussi la crainte de perdre une forme de sécurité.
C'est ça,
exact.
Et c'est ça qui est important de questionner.
C'est vraiment le saut dans le vide. Quoi.
C'est ça.
Donc on n'est plus salarié, on se lance, on ne sait pas combien on va gagner, à quelle hauteur, comment on va s'en sortir.
C'est ça.
Des retours que vous avez, ça ?
C'est pour ça que ça, on le travaille aussi en amont, c'est-à-dire la situation de la personne, si, je ne sais pas moi, si elle est en couple, si elle est seule, etc., si elle a des enfants, c'est vraiment aussi de combien elle a besoin par mois. Enfin, l'idée, ce n'est pas, à la suite du bilan, d'être dans une situation encore moins confortable que ce qu'elle vit.
Ouais.
Et on les accompagne beaucoup parce qu'il y a beaucoup de représentations aussi, il y a beaucoup de dire « Ah ouais, moi je connais quelqu'un qui fait ça, il gagne super bien sa vie. » Mais sauf qu'ils ne voient pas, des fois, tout le travail, en fait. Il y a beaucoup de communication à faire avant de se faire connaître, et beaucoup de réseaux. Enfin, il y a tout ce travail-là aussi, en sous-marin, j'ai envie de dire, qu'ils ne voient pas forcément. Et nous, on n'est pas là pour mettre des barrières, mais au contraire, pour être vraiment dans c'est quoi la réalité aussi. Enfin, je veux dire, et tant mieux, parce que ça marche pour la plupart, et c'est pas parce qu'il y a déjà 2 thérapeutes dans la même rue que la personne, elle va pas développer son activité. Mais c'est surtout tout ce qu'il faut mettre en œuvre et comment la personne, elle va le mettre en œuvre, en fait.
Et donc, est-ce que vous avez des retours de personnes que vous avez accompagnées, là, enfin, d'adultes, du coup, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ou une profession liée au bien-être ? Pour qui ça marche, du coup?
Ah bah oui. Et puis souvent, on est invité quand elles ouvrent leur structure, ou je sais pas, au 1 an, etc.
On
et dit puis
elle. Mais oui, il y en a beaucoup de femmes.
Elle, pardon.
Il y a beaucoup de femmes, c'est vrai.
Oui, c'est personne, pardon. Et ce qui est important aussi, c'est que nous, on peut aussi on parle d'elle. Enfin, ce que je veux dire, c'est le réseau, c'est ça aussi. Donc c'est super important, en fait. C'est comme ça que ça se construit, enfin, en tout cas pour nous.
Après, moi, ce que j'aime dire, que ce soit pour les jeunes ou les adultes, c'est qu'on est là vraiment pour simplement révéler au fond d'eux leurs envies, parce que finalement, et qui y sont, mais ils le savent au fond d'eux, souvent c'est qu'ils n'osent pas. Et donc nous, on est vraiment là pour les aider à faire émerger ça, émerger ces envies, et en rapport bien sûr avec leur profil, et ce qui est possible, et leurs contraintes, et tout ça. Et c'est pour ça que justement, l'idée, c'est pas de les accompagner à aller vers quelque chose là où ils ne réussiront pas, mais justement de les amener à faire en sorte que les choses soient possibles, et construire leur projet avec des plans d'action. Voilà, c'est un peu leur donner des filets aussi par rapport au saut à faire.
Et puis leur permettre, enfin, les laisser s'autoriser, en fait.
C'est ça.
À faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que peut-être qu'il y a encore beaucoup de personnes pour qui le travail est associé à quelque chose de très lourd et très contraignant, et qui ont envie de faire quelque chose qui leur plaît, tout simplement, et qu'ils aiment. Mais est-ce que vous travaillez avec d'autres structures qui permettent aussi ça, ou est-ce que vous êtes en lien avec... Enfin voilà, vous parliez de réseau tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose qui est important dans la mise en place, enfin dans une reconversion professionnelle et un changement d'orientation ? Et
oui, c'est important. Alors déjà, nous, on travaille beaucoup ensemble aussi en collaboration. Donc des fois, quand, tiens, est-ce que tu peux recevoir telle personne ? Et, des fois, Catherine, elle a un avis différent. Enfin, on a forcément une vision et un regard différent et du coup, ça aide. Et après, moi, je travaille aussi avec des centres de formation, avec d'autres thérapeutes qui sont déjà installés, avec des professionnels, parce que du coup, depuis 10 ans, qu'on est aussi à notre compte, on a gardé beaucoup de liens avec des personnes et du coup c'est hyper important aussi de faire des échanges avec par rapport à leur expérience, comment ils ont démarré, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Connexion entre ceux qui se sont lancés, ceux qui ne sont pas encore lancés.
C'est ça. Ouais. Après, il y a les organismes aussi qui aident à la création d'entreprises. Voilà, tous ces liens-là, oui, c'est important. Et quand on dit que c'est important de faire du réseau pour s'installer, il y a ce réseau-là, mais il y a aussi nous, le réseau qu'on a, et on va leur permettre aussi voilà, de faire des enquêtes métiers, d'aller contacter les bons organismes, peut-être d'avoir ils ont peut-être besoin de formation pour se lancer, on va les orienter aussi là-dessus. C'est vraiment faire un canevas de leur démarche pour atteindre leur objectif, et vraiment, je pense que le mot-clé qu'on a toutes les deux, c'est l'épanouissement de la personne.
Qu'elle soit vraiment bien dans ce qu'elle fait.
Je crois que c'est parce qu'on s'est cherché longtemps et du coup, on s'est cherché longtemps. On est plutôt des passionnés, donc on a besoin que ça vibre, on a besoin de s'épanouir dans ce qu'on fait. Et quitte à remettre en question des fois notre façon de faire, quitte à remettre en question plein de choses. Et c'est aussi ça qu'on a envie d'offrir aux gens.
Et justement, par quel parcours vous êtes passé, par quel métier vous êtes passé avant pour arriver là aujourd'hui?
Alors moi, j'ai démarré dans les ressources humaines, en fait. Ça a été mon premier emploi où j'ai accompagné du coup des salariés sur la formation, sur la gestion des compétences, le recrutement, etc. Ensuite, j'ai fait de l'insertion. Du coup, j'ai accompagné des demandeurs d'emploi qui étaient porteurs de handicap et qui avaient envie de changer ou qui devaient changer de projet. Donc déjà, j'ai été là-dedans et je faisais de la sensibilisation aussi auprès des entreprises. J'ai découvert aussi plein de secteurs d'activité. Ça m'a beaucoup aidé pour l'orientation et pour le bilan de compétences. J'ai aussi travaillé dans un centre de formation. Donc après, les financements de formation, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, on s'est beaucoup formé.
En dehors, donc, par des stages,
des formations, justement sur l'orientation, sur des outils qu'on utilise, sur tous les outils sur la personnalité aussi. Moi, je suis thérapeute familiale, donc ça m'a aidé pour accompagner les parents. Mais c'est des outils et c'est beaucoup, beaucoup de recherche au début, en tous les cas.
Et moi, alors pareil, j'ai un parcours ressources humaines. Donc, moi, j'étais plutôt recrutement et formation. Et au bout de 4-5 ans, j'ai tout plaqué pour passer le concours d'enseignante. J'ai pris un poste de surveillante en collège pour préparer mon concours, etc. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte quand même que le système ne me correspondait pas forcément.
Qu'est-ce qui t'allait pas
C'était le côté liberté pédagogique où en fait on nous parle de liberté pédagogique, mais finalement dans les inspections je suis pas sûre qu'on ait vraiment cette liberté là. Et puis en fait c'était au moment de la réforme aussi du concours et moi j'ai dû reprendre donc le master de métier de l'enseignement que j'ai fait à 30 ans. Et donc voilà, je me suis relancée et c'était très chouette. Aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout. Ça m'a donné plein de compétences. Mais par contre, c'est vrai que c'était un moment aussi où les enseignants étaient un peu déprimés, on va dire. Donc voilà, ça ne m'a pas trop donné envie. Donc j'ai rebondi en partant travailler en formation continue dans une MFR au départ et en remplacement congé maternité, puis après dans une école d'ingénieurs sur Lyon. Donc ça m'a permis aussi d'être quand même dans l'enseignement, même si c'était la formation continue. Et puis après, j'ai travaillé en organisme de formation, mais je ne suis pas restée parce que ça collait pas. Et de là, en fait, je me suis dit, si je ne me forme pas maintenant, je ne le ferai pas. Donc, en 2014, je me suis certifiée en coaching. J'ai, comme Virginie, beaucoup investi sur moi, sur des formations en PNL, plein de formations et d'outils. Donc, je me suis installée en 2014 et en parallèle, je suis enseignante à l'université. Donc ça me permet aussi voilà, d'avoir toutes ces infos pour l'orientation des jeunes et d'être quand même voilà, dans le milieu. Tout est lié en fait. Mmh. L'accompagnement, enfin, par le coaching, par le bilan de compétences. Je me suis formée au bilan de compétences.
Quand même différentes activités en gardant un lien avec l'enseignement. À la
c'est
fois,
ça.
Du coaching aussi.
C'est
un
ça.
Peu.
Coaching, bilan de compétences, bilan d'orientation, enseignement sur le projet personnel et professionnel et personnel des jeunes. Donc, tout est lié, en fait.
Et donc, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ça te convient ? Enfin, que toutes ces choses qui se complètent, ça te
c'est
va
ça.
Et c'est pour toi, c'est ce qu'il te fallait.
Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et mais toi, parce qu'à un moment donné, on a eu l'audace de changer, d'oser. Mmh. C'est ça aussi que... Enfin, moi, personnellement, c'est ça que je veux offrir aux gens. Qu'on veut transmettre.
C'est ça aussi le plus dur, quand même, de passer le pas, en fait. C'est énorme, ça peut être effrayant. Peut-être.
C'est pour ça qu'il faut les rassurer. Nous, on est là pour les rassurer et puis surtout mettre des étapes, construire le projet pour pas qu'ils aient cette sensation de passer de tout à rien et qu'il y a un gap énorme entre les deux et que c'est souvent ça qui les effraie, en fait.
Tu voulais réagir ?
Ce qui est important aussi quand on travaille sur le projet, enfin, je reviens là-dessus, c'est vraiment ce projet réaliste et réalisable. Donc, il faut vraiment que le projet il soit adapté à chacun. Les étapes, elles vont être différentes d'une personne à l'autre. Moi, si je prends mon expérience personnelle, j'étais salariée, j'ai pris un congé sans solde pendant 9 mois. J'ai créé ma structure parce que j'avais besoin d'être sans filet, de vivre vraiment le fait d'être en libéral, sans client, j'ai démarré comme ça, en fait. Et bien, moi, j'avais besoin de ça. Enfin, moi, de par mon expérience ou même mon profil entreprenant, j'ai besoin d'être dans l'action. Donc,
tu veux dire, te confronter vraiment
à la réalité.
D'un peu brutal, aussi.
Voilà,
quand même.
Mais pour certains, ça fait flipper. Donc, on va passer autrement, départ, rupture conventionnelle ou autre. Mais voilà, et c'est pour ça que chacun se respecte en fonction de... C'est ce qu'on dit. Le retour d'expérience, il est super important, mais en même temps, voilà. Moi, ça m'a convenu, ça ne va pas convenir à Catherine ou à toi. Enfin, je veux dire, chacun doit trouver...
ce qui lui convient. Et est-ce que vous avez constaté peut-être une augmentation, une hausse des reconversions professionnelles ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui font appel à vous ? Ça dépend des périodes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ?
L'année 2020, moi, ça a été une des plus grosses années, en fait, avec beaucoup, beaucoup de demandes qui se sont multipliées encore plus.
De reconversion.
De reconversion. Moi, ça fait depuis 2012. Chaque année, on a beaucoup, beaucoup de demandes, en fait. Ça ne s'est jamais stoppé, en fait.
Mais 2020, donc, quand même, bon, avec le Covid, été le déclencheur, j'imagine, aussi de ça. Et c'était... Qu'est-ce qui était exprimé à ce moment-là ? C'était un ras-le-bol de son travail
Être en accord avec ses valeurs. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Mais du coup, j'ai envie de faire quoi ? Y avait vraiment ça, en fait.
C'était une envie de s'arrêter, mais sans savoir vraiment vers quoi se tourner.
C'est ça. D'accord. Mais en tous les cas, des métiers qui sont plus proches de ce qu'ils avaient envie de vivre, en fait. Plus subir le métier qu'ils avaient. Pour certains, c'était ça, en fait. Et se dire, comment je fais ?
Ouais, pour
comment je me donne les moyens, en fait. Ouais.
D'accord.
Ouais, c'était l'occasion de se poser, en fait. Et ça, en fait, ça a été une introspection, je pense, un peu subie et qui leur a permis de s'autoriser, encore une fois. Et moi, c'est vrai qu'en fin d'année 2022, là, j'ai eu énormément de demandes également.
Ah, okay.
Ouais. D'accord. Je pense qu'il y a un deuxième effet Covid, ceux qui sont peut-être pas, se sont peut-être pas posé les questions avant. Voilà. Ou des fois, il y en a, ils se posent la question. Moi, il m'arrive des fois, je rencontre des personnes et puis elles vont me dire « Oui, en fait, ça sera plus dans 6 mois. » Voilà, il y a des personnes qui commencent à prendre des renseignements, par exemple, sur le bilan de compétences et puis qui ont besoin d'émerger, d'infuser. Puis quand ce sera le bon moment...
Elles se lanceront.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cette thématique de l'orientation ?
L'orientation, en tous les cas, le bilan de compétences est en hausse. L'orientation scolaire aussi, on a beaucoup, beaucoup de demandes, en fait. Alors après, il y a une espèce de saisonnalité aussi pour l'orientation, avec Parcoursup, avec les vœux et tout ça. Et limite, j'avais envie de lancer un appel.
Tu peux y aller, vas-y.
Non, pas un appel, mais en tous les cas, c'est la raison pour laquelle on forme des personnes aussi à l'orientation, parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment ce besoin-là, que du coup, ça se développe et que nous, on a envie de transmettre aussi ce qu'on fait.
Bien sûr.
Donc voilà.
Ok. Et toi, Catherine, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à...
Je ne dirais pas mieux.
Ok, oh, très bien. Eh bien, on va conclure dans ce cas. Moi, je vais juste reprendre le micro pour faire un petit point info, puisque aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier et c'est un jour de manifestation contre la réforme des retraites partout en France. Donc, comme vous le savez, cette réforme repousse l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc, c'est une réforme qui n'est bénéfique pour personne, que vous soyez professeur, ouvrier, maçon, boulanger, artisan, paysagiste, travailleuse et travailleur précaire ou encore permittent. Cette réforme impose de travailler de plus en plus longtemps, le tout dans un contexte de crise climatique. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein sera portée à 43 ans en 2027. Cela veut aussi dire que toutes les personnes en contrat court, en CDD, en situation de précarité, celles et ceux qui ont du mal à trouver un CDI ou qui n'en veulent pas, ceux pour lesquels la pénibilité du travail est accrue, la retraite va se transformer en un mirage lointain. Donc si vous n'êtes pas encore au courant, les prochaines manifestations débutent à 14h à Montélimar aujourd'hui et à 14h30 à Valence. Et pour conclure cette émission, je vous propose une méditation de Charlie Delbois sur la thématique des retraites. Bonne écoute.
Namasté, ma chère communauté. Après avoir pris ma douche de gratitude, dans laquelle vous étiez toutes et tous présentes ce matin, je souhaitais vous offrir en retour un petit moment de présence à vous, afin que la gratitude qui me nourrit tant à présent circule dans ce tourbillon astral lumineux du cosmos de l'univers transgénérationnel qu'est la vie. La gratitude est un sentiment de reconnaissance que nous éprouvons lorsque nous mesurons la saveur de ce que nous vivons. Plusieurs études, dont je n'ai pas réussi à trouver les sources, mais je suis sûre qu'elles disent vrai, racontent que pratiquer la gratitude quotidiennement permet de nous rendre plus heureux et heureuses, plus vivants et vivantes. Bref, d'avoir une vie un peu plus bien, un peu plus mieux. Il s'agit de prendre pleinement conscience de tout le positif qu'il y a dans notre vie, en ce moment et à présent, ici et aujourd'hui, actuellement et présentement, tout de suite et maintenant. Si vous le voulez bien et où que vous soyez, dans le métro, au rayon dentifrice de Carrefour City au coin de votre rue ou prélassé devant votre Picsou magazine, installez-vous confortablement et fermez les yeux pour revenir plus près de vous-même. Gardez la tête, la nuque, le dos bien droit, dans une posture à la fois digne et confort. Trouvez le juste équilibre entre la tension consciente et le relâchement qui détend du slip. Dans cet instant de calme, notez comme il est agréable de pouvoir se retrouver avec soi. Commencez par respirer profondément. Super. À présent, je vous invite à revoir tout ce que vous avez vécu dans la journée ou dans la semaine passée et à y rechercher quelque chose ou quelqu'un à remercier. Il peut s'agir de la chaleur d'un rayon de soleil sur votre visage, de l'arrivée du Bitcoin dans le métaverse de la blockchain, du petit message sur votre yogiti qui vous disait que vous êtes unique et que la journée va être belle, ou de la sortie du dernier album d'Aya Nakamura. Quelle que soit la journée qui s'est écoulée, il y a forcément un détail qui mérite votre reconnaissance. Il est possible que votre mental vous joue des tours et vous attire vers ce que vous manquez, et ce dont vous pensez avoir besoin pour être heureux ou heureuse. Il se peut, par exemple, qu'en ce moment, la réforme des retraites vous angoisse profondément. Si c'est le cas, posez votre attention à la place sur votre future retraite de jeûne ou de yoga. Vous voyez, il y a tellement d'autres façons de bien vivre sa retraite. Inutile de rajouter du stress en faisant grève ou en vous égosillant dans la rue pour deux petites années de labeur supplémentaires. Le problème n'est pas ce qui vous manque, mais ce désir insatiable d'avoir toujours plus de temps libre, qui vous poussera toujours vers l'insatisfaction et vous éloignera de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Répétez lentement après moi. 64 ans, c'est pas si mal. 64 ans, c'est pas si mal. 64 ans, c'est pas si mal. Si vos pensées vous emmènent encore vers le chemin de l'insatisfaction, Je vous invite à envoyer de l'amour et de la gratitude vers tous ceux qui travaillent encore après 64 ans et qui font leur part. Ces colibris de la vie qui ne pensent pas à la retraite tellement ils sont occupés à prendre soin de nous et du monde, sans jamais compter leurs annuités. Donald Trump, 76 ans. Bernard Arnault, 73 ans. Xi Jinping, 69 ans. Vladimir Poutine, 70 ans. Et ils sont si nombreux. Gratitude infinie pour ces êtres de lumière. Pour terminer, posez de nouveau votre attention sur toutes les choses sympatoches de votre quotidien. Et n'oubliez pas d'exercer également votre gratitude pour toutes les choses fondamentales qui nous rendent vivants et vivantes et que l'on a tendance à oublier, parfois. Gratitude pour avoir la capacité de voir. Merci mes yeux. Gratitude pour avoir la capacité d'entendre. Merci mes oreilles. Gratitude pour avoir une fin de vie digne. Merci Elisabeth. La cloche vient de sonner. Notre méditation prend fin. Je vais vous inviter, quand ce sera le bon moment pour vous bien sûr, à ouvrir les yeux, à vous étirer à votre rythme et à savourer toute la dopamine générée par la gratitude qui s'est installée en vous. Vous devez vous sentir à présent un peu plus bien, un peu plus mieux à votre tour. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et partager cette méditation sur les réseaux sociaux. En me faisant ce cadeau, vous recevrez toute ma gratitude, bien évidemment, ainsi que ma newsletter mensuelle, remplie de conseils et de stages faits pour vous. Paix et amour sur vous, ma communauté chérie.